Eh ben voilà, je me suis mis à dos tout le monde avec mon histoire de télévision publique humaniste au light. Les opérateurs téléphonie mobile, ils sont pas contents. Les chaînes privées de mes deux super potes Martin Bouygues et Tavernost, parce que je veux leur taxer un chouïa de leur recette publicitaire. Et en fait, ils font leur vierge effarouchée, mais ils sont bien contents que je supprime la pub sur France 2, France 3. Parce que moi, automatiquement, ça va faire gonfler leur recette de pub. Hein? Alors on peut bien leur en prélever un petit peu. Et puis une deuxième coupure de pub, hein? Ils l'ont pas oublié. La deuxième coupure de pub pendant le film, qui c'est qui l'a mise en place? C'est moi. Alors, hein, bon, enfin, ça fait partie du jeu, ces petits cris d'orfraie. Et puis aussi, je me suis fâché avec l'opposition. Parce que je vais nommer moi-même le président de France Télévisions pour en faire une télé de propagande, comme il dit M. Montebourg. Mais c'est pas nouveau. Deux exemples. Avant Chirac-Le Pen de 2002, il n'y a pas que TF1 qui passait en boucle de reportage sur l'insécurité. Les chaînes publiques aussi, elles suivaient l'opération peur croissante dans les foyers pour orienter le vote. Et puis les incidents de la gare du Nord qu'on a quasiment scénarisé avec mon équipe, ils ont été médiatisés par tous, privés, publics, confondus. Et les images de mes meetings fournies aux chaînes par mes propres équipes de tournage. Enfin bon, j'avais dit deux exemples. Donc le contrôle, il est plus hypocrite ou tacite, il est clair et explicite, c'est tout. Ça, plus ma future loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, mais merci Ben Laden, liberticide à donf, tiens, je commence à parler comme Carla, moi. Bah, je pourrais contrôler tout le monde. Et on saura qui c'est qui a pas acheté le CD de mon italienne adorée. Allez, salut Daniel. Et pour l'instant, j'ai rien réfléchi en ce qui te concerne, mais t'inquiète pas qu'on va pas te mettre à 3h, on va te mettre à 3h du matin. Allez, au revoir à tout le monde. C'était Lucas de Picardie, un petit peu énervé par tout ça, mais bon, qui reste zen. On va avoir de l'humour.
Bonjour, je vous téléphone parce que c'était pour vous dire que j'en avais marre qu'on vilipende le gouvernement comme ça. Il faut rappeler quand même qu'il a été élu par 53% des Français. Alors moi, ma question c'est, a-t-on 53% de faux culs ou 53% de cons? Voilà.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les AMG. Aujourd'hui, émission très très dure. Juste avant les vacances, ça fait mal. C'est impressionnant d'entendre les choses qu'on a entendues. Et malheureusement, ça doit encore exister, ce qui est encore plus grave d'ailleurs. Enfin bon, passons. Je souhaite une bonne fin de saison à tous les AMG et à toute l'équipe. Et j'espère retrouver l'émission au mois de septembre. Parce que des émissions comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Allez, merci, au revoir à tout le monde et bonnes vacances. Au revoir.
Salut, c'est Phil de la Nice. Salut l'équipe, et d'emblée, bonnes vacances, en espérant quand même qu'on vous retrouve à la rentrée. Ce dont je suis pas sûr, vu ce qui se passe. Bon, vous avez vu les dernières mesures pour les retraites, 5% de majoration par année de travail effectué au-delà de 60 ans. Il paraît même que ceux qui travailleront jusqu'à la veille de leur mort pourront toucher en guise de retraite la totalité de leur salaire, mais à titre posthume. Il y a une révolution qui se pointe petit à petit, là. Il y en a un, comme il ne fait pas la taille, on ne pourra pas le guillotiner. Il faut déjà réfléchir à quelle sauce on va le manger. Salut à tous et bonnes vacances encore. Et merci.
Salut Daniel et toute l'équipe. René de Montpellier. Avant de nous séparer, j'ai voulu vous souhaiter de très bonnes vacances. Il faudra en profiter pour recharger les batteries. En septembre, la résistance aura bien besoin de nous tous. Je vous embrasse.
Bonjour, Marie-Jo de Arles. Bon, dans le cadre, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Voilà, un dernier exemple. Ma mère est hospitalisée à domicile, donc on doit aller chercher les kits de perfusion, qui sont bien sûr remboursés par la Sécurité sociale, mais pas l'aiguille. Donc ça doit être un confort, hein, de prendre une aiguille pour faire une perfusion. Voilà, merci, bonnes vacances à tous et à la rentrée. Restons vigilants. Au revoir.
Je suis un bon Français. J'ai travaillé plus pour gagner plus. Il a fallu que je travaille beaucoup pour gagner plus. Mais j'ai gagné un peu plus. Et du coup, je suis tombé malade. Mais avec l'argent que j'ai gagné en plus, j'ai pu acheter une partie des médicaments pour me soigner. Voilà. Tout va bien. Bonnes vacances à tous. Et vivement la rentrée. En espérant qu'on fasse un peu plus. Pour gagner toujours plus. Salut, c'était Yann, en Bretagne.
Dernier message du repère de Limoges. Cette année, à la demande de fidèles AMG, les rencontres continueront pendant les vacances. Donc les premiers mercredis de juillet et d'août à partir de 18h30, toujours Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Montjovi. Pour ceux qui ont la chance de partir sur les routes de France ou d'ailleurs, on souhaite de bonnes vacances ainsi qu'à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Et n'oubliez pas que pour nous préparer une belle et rebelle rentrée, rien ne s'arrangera jamais si on ne regarde pas le présent avec les yeux de l'avenir.
Je voudrais dire merci à tous ceux de là-bas qui y suivent, bonjour aussi, et aussi à des gens comme Alain Ray et de ce bord. Voilà, je trouve que tant de réformes en imposent une, celle de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité, aux oubliettes. J'ai la nausée. Merci à ceux qui luttent contre le mépris institutionnalisé et vive l'humanisme dominicain.
Bonjour à toute l'équipe de Mermet, et Mermet lui-même bien sûr. Je suis Michel, il m'arrive quelquefois de vous laisser un message. Je suis prostituée, je le dis parce que ça peut avoir son importance. Là aujourd'hui j'appelle parce que je suis très étonnée que les gens soient surpris de l'attitude de Monsieur Sarkozy, qui dès le départ a apparu à mes yeux de pauvre prostituée sans opinion, paraît-il. Moi j'ai tout de suite compris que c'était un dictateur. Nous l'avons compris en 2003. Mais de toute façon, c'est un dictateur. Il en a le physique, l'attitude et les raisonnements. Tout ça est bien enveloppé, bien sûr. C'est pas dit ouvertement. Il est en train de nous amuser. Mais ça finira par une dictature et ferme. Voilà, je bafouille un peu parce que je suis quand même un petit peu impressionnée de laisser un message. On ne sait pas s'il sera diffusé, mais peu importe, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous écoute tous les jours et merci pour vos émissions. Au revoir.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir simplement si Daniel Mermet et son équipe est reconduite au mois de septembre. Merci. Je l'espère, tout du moins. Merci.
Eh ouais, on se retrouvera à la rentrée de septembre, le 1er septembre. Mais au cours de l'été, vous allez retrouver pas mal de l'équipe de la Bassi J'y suis sur les ondes de France Inter. Guy Vanctil sera présent le dimanche soir de 22h à minuit dans une émission sur le jazz. Guy va voyager à travers tous les États-Unis, de la Nouvelle-Orléans à Chicago, Kansas City, New York et Los Angeles. Et de tout ce long voyage, il ramène une série d'émissions donc que vous écouterez le dimanche soir. Ce sera réalisé par Yann Chouquet, bien évidemment, avec Raphaël Moutarde pour le montage. Coy Nguyen réalisera l'Afrique enchantée de Solo et Guillaume, qui remplacera cette émission à partir de lundi, avec Charlotte Perry qui sera au montage, Pascal Pascariello et Delphine seront dans l'émission du matin Cha-Cha-Cha, l'émission d'Olivier Gesbert. Voilà, et puis elles feront du reportage. Et puis Christophe Imbert réalisera, comme tout au cours de l'année, Sous les palmiers, la plage de Laurence Pierre. Ce sera le samedi soir de 22h à minuit. Voilà, vous n'allez pas être malheureux cet été sur les ondes de France Inter. Et puis je dois vous lire ceci. Dans un arrêt rendu le 19 octobre 2006, la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris a jugé que Daniel Mermet avait tenu des propos diffamatoires envers l'association Avocats sans frontières présidée par Maître Gilles Golnadel, avocat à la Cour, dans le cadre de l'émission intitulée Là-bas si j'y suis, diffusée le 15 octobre 2002 sur les ondes de France Inter. La Cour d'appel a alloué à l'association Avocats sans frontières la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et a ordonné la publication du présent communiqué. Voilà donc qui est fait. Alors, aujourd'hui, les choses qu'on peut imaginer de faire avec après, c'est la suite et la fin du reportage avec Pascal Audin, le Picasso de Jancet, dans le Poitou, un reportage d'Anne Rioux. Voilà, et puis une chose aussi importante pour ceux qui ont loupé la souscription au DVD Chomsky et compagnie, eh ben c'est trop tard puisque c'était le 18 juin à minuit, vous vous souvenez. Alors ceux qui sont retrouvés tout petits avec des talonnettes, nous enverrons leurs photos, mais ils ont encore une chance, c'est ils peuvent se procurer encore le DVD, mais évidemment au tarif normal, en attendant la sortie du film à la rentrée. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, on est en train de négocier, mais d'ici là vous pouvez vous procurer le film au tarif normal en allant voir sur le site labas.org ou bien les mutins de pangemelabas.org. C'est très commode. Voilà. On retrouve Pascal Audin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Labas. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Ceci est un message du Festival du film militant du Pays d'Aubagne qui s'adresse aux VMG, les vidéastes modestes et géniaux. Si vous avez produit cette année ou les 2-3 dernières années un film modeste et génial mais engagé et autoproduit, eh bien le Festival du film militant attend vos films pour nous envoyer les DVD, tout ça, vous trouvez toutes les infos sur Internet en tapant Festival du film militant sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous le trouvez. Il y a toutes les infos sur notre site. Le thème de cette année, c'est la jonction des luttes, donc on espère bien que vous en serez.
Bonjour à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Un message pour vous inviter à une grande fête militante et festive samedi à Bostens. Bostens est un petit village dans la forêt des Landes, à quelques kilomètres de Mont-de-Marsan. Et à Bostens, il y a un endroit magnifique, le site des Neuf Fontaines, avec un bel aérial planté de chênes centenaires, une vieille maison landaise, des étangs alimentés par de nombreuses sources. Eh bien, Jean-Louis Borloo vient de décider d'y faire passer une autoroute. Et sauf décision de justice ou décision politique, les bulldozers détruiront le site au cours de l'été pour construire la première autoroute de l'après-Grenelle. Une autoroute inutile qui va nous coûter fort cher et saccager l'Aquitaine. Pour protester contre ce projet, nous organisons la 3e édition de l'appel des Neuf Fontaines. Avec la participation et le soutien de syndicats et d'associations régionales et nationales, les Amis de la Terre, ATTAC, la CGT Cheminot d'Aquitaine, France Nature Environnement, Greenpeace, le PC des Landes, la CEPENSO, les Verts Aquitaine, le VVF et bien d'autres encore. Tout le programme est à l'adresse suivante, ASSO, ASSO-ARLP.org. Je répète, ASSO-ARLP.org. Et merci à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis pour vos émissions. Au revoir.
J'appelle pour une information sur une journée pour les droits de l'homme au Maghreb qui aura lieu le samedi 28 juin à l'université de Saint-Denis, salle D3. Université Saint-Denis, 2 rue de la Liberté, métro Saint-Denis, université. C'est juste, on a organisé suite aux journées, c'est juste avant que la France ne préside l'Union européenne. Et la journée est intitulée « Pour un Maghreb des droits de l'homme ». Et c'est une journée d'information et de mobilisation. Merci de passer le message. Venez nombreux, on vous attend.
Il y a des moments tristes, il y a des moments heureux. Tu fais quelqu'un sur toi-même, hein? Voilà, c'est ça. Tu t'en rends pas compte. Joie de vivre, ça, de peindre. Il y a même de l'eau, puis un bout de pain, puis démerde-toi. Là, ils m'ont battu, là. Bah là, on a rouste. Quel est-ce que vous ne savez pas? C'est resté en moi-même. J'ai pas eu de chance avec mes parents, j'ai pas eu de chance avec mon fils. Ouais.
Mais vous avez un fils ?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Anne Rioux et Pascal Audin. Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Bonjour.
Bonjour,
je fais un reportage sur Pascal.
C'est un monsieur très sympathique dans le coin. On l'aime beaucoup dans le quartier.
Elle aime bien ce que je fais.
Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, dès qu'il a une nouvelle toile, allez, il vient me montrer. On déplie dans le magasin. C'est très sympa. Il a été tout de suite très sympathique, pas envahissant non plus. C'est pourquoi il a été bien adapté tout de suite.
Et à la fois, il a une façade qui est tellement bariolée, qui est tellement... Enfin, ce sont des œuvres que ça détonne un peu sur cette petite place de village.
Oui, effectivement, au tout début, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce marginal? Au début, là, les petites inscriptions sur les volets, ça faisait drôle, on s'est dit, mais qui est là? Ben, c'est des dessins qu'ils nous faisaient sur les volets, quand même, hein, sur le coup, on s'est dit, attends, les messieurs, quand ils attendent dans mon magasin, ils disent, mais qui c'est ce monsieur qui fait des choses comme ça? Ouais. En fait, quand il a déployé tous les jours, un petit peu plus, c'était rigolo, c'est coloré, et puis la maison mérite bien, parce que c'est une maison fermée et tristounette. Ouais. Après tout, bah, ça a apporté un petit peu de lumière dans le coin.
Un bel atelier en plus.
Et physiquement ?
Alors physiquement, il le sait très bien. Aujourd'hui, j'aime pas du tout. J'ai horreur de cette barbe.
Voilà.
Ah. Donc le cheveu est tout pas coupé. Bon, bah, c'est l'artiste.
C'est le marginal.
C'est le marginal.
Merci.
Là, il faut y aller.
C'est à son boulot, moi aussi.
Au revoir.
Voilà. Monsieur de la déchetterie, là, bon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Voilà. Ça va bien.
J'aime bien aller fouiller là-dedans, un petit peu.
Vous êtes obligé de descendre là-dedans?
Je suis bien obligé.
Et ben voilà, nous voilà à nouveau à Jancey, dans cette petite ville de Jancey, avec Pascal Audin et ses voisins, sa voisine là, qui trouve sympa comme tout le bistrot d'en face. Ça se passe bien, ça se passe bien. Le marginal n'est pas très marginal puisque il est tout à fait intégré. Et pourtant, il vient de loin. Il en a vu. Il nous a raconté un peu quelle fut sa vie d'enfant du placard, les horreurs qu'il a vécu, qu'il a connu, les souffrances dans l'enfance, etc. Et ben voilà, tout ça s'est retourné jusqu'à peindre, jusqu'à là, comme il est en train de le faire dans cette déchetterie, aller chercher, cueillir, ramasser les matériaux de ses sculptures, de ses peintures et de ses collections aussi. Parce que Pascal est un sacré collectionneur, on a vu sa collection d'ours. Il collectionne d'ours, il en a plus de 3000. Il collectionne les sifflets, les boîtes à musique, les boules de neige, les clés, les voitures miniatures, les boules de thé, les pipes, les signes, les pièces de monnaie, les objets pour qu'on plante dans les bûches de Noël, etc. Et puis qu'il collectionne tout ça, c'est tout un monde, un univers. Vous pouvez aller le voir, hein. Vous pouvez tout à fait aller le voir à Jancey, c'est en dessous de Poitiers, à 25 km, en dessous de Poitiers. C'est 15 places du marché de Jancey. Visite sur simple demande. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas fermé, c'est pas mystérieux, c'est tout à fait ouvert et c'est un artiste. Alors, évidemment, le mot artiste a des sens différents, hein. On a parlé hier de Jean Dubuffet. Pascal Audin se définit lui-même comme un peintre naïf. Il dit, oh non, l'art brut, bof. Non, dites que je suis un peintre naïf. Pascal Audin, peintre, artiste, hors norme, à Jancey, jusqu'à 16h, là-bas, j'y suis.
Est-ce que vous avez revu vos parents?
Mon père décédé, de toute façon. Je m'en vais maintenant.
Vous la revoyez, votre mère?
Non, je ne veux pas la voir. Je vous fais le mur, moi.
C'est moi l'enfant du placard, celui qui a grandi dans le noir, les yeux pleins de larmes chères, la nuit dans mes étagères.
Moi, j'étais le mal aimé de ma famille, déjà.
Il y a l'enfance de l'art, moi c'est l'enfant du placard, parfois encore dans mes narines flotte une odeur de naphtaline. Et souvent quand tombe le soir, j'ai la nostalgie du placard.
Voilà. On choisit pas. Comme on dit, on choisit pas sa famille. La, 375 km. J'ai quitté le boulot, mon frère. Au départ, c'est rien, hein. Ça rend les gens fous. Les piqûres, c'est une modécate. C'est un traitement qui donne ça dans les fesses. Là, ça t'assure boum, tu tombes. Moi, je voulais pas rechuter, je voulais faire quelque chose de ma vie. Moi. J'ai pas une revanche dans ma vie. Moi. Je veux pas une revanche dans ma vie.
Vous avez fait entre 14 et 18 ans?
J'ai plein de trucs. J'ai resté dehors. J'étais dehors. Ben juive.
Mais vos parents vous cherchaient pas?
Ah non, plus rien. Non. Je faisais ce que je voulais. J'essayais de contacter toi, une dame, pour que je rentre dans un centre. Toi. Ça serait bien pour moi que vivre dehors, j'ai rien à faire, moi. Bah ouais. Hein.
Et vous aviez quel âge, là?
17 ans, j'irais bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'en parle pour ça. Il y a des trucs qui s'est passé, je ne veux pas en parler. Ça reste dans mon cœur, comme tout à l'heure j'ai dit.
Vous appreniez quoi?
La peinture. J'étais peintre de métier, en bâtiment. Et ça me plaisait beaucoup. Puis il y a eu une histoire, ça ne m'a pas plu après. Toi, j'étais complètement révolté, toi. Ce qu'ils m'ont fait, c'est jamais oublié. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils ont abusé d'eux, comme moi, voilà. Puis voilà, puis j'en parle pas, puis bon. Tu peux pas imaginer, là. Toi, t'imagines pas, toi. T'es pas un garçon. T'es une fille. Une fille, ça aurait été pire. Hein. Ouh là là. J'imagine le reste, moi, après. Le reste, pour une fille, ça doit être dur. Hein. Ouais, ouais. C'est la pire. Il y a des salis, après. Nous, on était salis aussi. Hein. Par des ouvriers, nous. Hein. Puis on avait ras-le-cul, on pouvait plus bosser, nous. Ce qui nous fait subir les ouvriers. Nous, on a resté pendant un mois sans rien dire. Puis le boyer, le patron, il a dit, putain, ça va pas du tout, vous, hein. Les deux, là. Tu vois mal, hein. Puis lui, il a dit, allez, on l'a prépare, le patron, pas devant les ouvriers. Un soir, on était chez lui. Je sais plus quoi dire, moi, déjà. Lui, il a parlé, moi, je voulais rien dire. Et moi, j'avais la honte de le dire, que... enfin, on lui aura dit que j'ai subi, puis lui aussi, voilà. Oh là là, c'est pour me mettre, moi. Le jeune, oui, c'est pour me mettre, aussi. C'est dur, hein, de raconter ce truc qu'ils ont fait, nous, à nous. Il a des enfants, lui, il sait ce que c'est, voilà. Puis bon, après, le mec, il a fait virer tous les ouvriers. Tu te rends compte de la boîte? C'était un patron clair, attention, ça. Puis il voulait pas de ça, lui, hein. À la porte d'entrée. Putain. Après, ils ont été convoqués à la chambre des métiers, toi. Le mec a porté plainte, le patron, il était sympa avec nous. Hein. Ça marque, après ça, je pourrais pas le faire, moi. Hein. Putain, on était des enfants, nous. Je suis pas d'accord, moi. On fait pas ça à des enfants.
Mais ça veut dire que les ouvriers avaient l'habitude de faire ça avec tous les jeunes, voilà, qui passaient?
Voilà. Un jeune, ils n'ont pas de sensibilité, peut-être. Puis ils ont fait ça à nous. Comme s'ils feraient ça à leur enfant. Puis le manque de peau, ils ne font pas à leur enfant. Ils sont mariés, ces gens-là. Ils ont des enfants, ils ne font pas à leur enfant. Ils font à d'autres. Mmh. Moi, j'étais soulagé après. Hein. Puis attends, ils ont convoqué mes parents, je ne sais plus quoi dire, moi. Bah oui, hein.
J'imagine que vos parents vous en ont voulu à vous.
Bah oui, hein. Ce qu'ils m'ont fait avant, eux. J'en ai parlé au patron aussi, ça. Il ne croyait pas, lui. Eh oui. Comment réagir, là? Eh ouais. Et je voulais plus travailler. Moi, j'ai arrêté de travailler après. Hein. Ah ouais, j'étais complètement déboussolé après. Hein. Quel mal, couillon, Guillaume. Il me reste toujours des séquelles aussi dans mon cœur. Et oui, voilà. Puis pour toute ma vie, non. S'il avait été comme ça, ben putain...
C'est-à-dire qu'avec un départ pareil dans la vie, comment vous pouviez imaginer la vie?
Je l'imagine, ma tante m'avait tout expliqué de A à Z, bon, comme ça, voilà, des questions qui se posent. Je te posais des questions à ma tante, moi. Toi, je traîne un pont, pas moi.
C'est une question de volontaire, si c'est pas...
C'est, j'ai pris une revanche dans ma vie, moi, voilà. Je reprends une revanche dans ma vie. Ah oui, hein.
Ouais, on connaît la phrase fameuse de, attribuée à Samuel Beckett. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Alors là, c'est ce qu'a fait Pascal Audin. Mais la phrase est belle, la métaphore est belle, mais sa vie ne l'était pas. Comment est-il passé de cette vie de merde? Il faut bien appeler les choses par leur nom. Il le dit lui-même, cette souffrance qui n'est pas si rare, qui est tenue au secret, bien évidemment, dans les plis et les replis des familles, des campagnes, de partout, à travers notre bel hexagone et bien ailleurs, bien sûr. Ces souffrances qui n'affleurent jamais parce qu'elles sont dégradantes et puis elles restent là. Et comment sortent-elles du bois et dans quel état et comment les transformer? Comment faire de ce plomb de l'or? Comment faire de cette souffrance, de cette merde, de la couleur? C'est une mystérieuse alchimie. Est-ce qu'on comprendra, à travers les mots de Pascal, comment les choses se sont ainsi retournées?
Vous avez fait une fois que vous avez quitté le chantier où vous étiez artisan peintre, oui. Mais alors après, qu'est-ce que vous avez fait
après, bah, j'étais placé dans les centres, moi, dans un centre d'adaptation au travail.
Un centre d'adaptation au travail.
Voilà. C'est un truc handicapé après ça. Après, je me remets dans la vie, hein. C'est pas facile. Hein. Puis apprendre de A à Z après. Hein. T'avais la pierre, t'avais le macramé avec Marie-Bonne, je me rappellerai toujours. La pierre, c'était avec Grégoire Bershenko. Voilà.
Alors, c'est là que vous avez appris à tailler la pierre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, là, vous aviez quoi, 18 ans? Vous aviez 18 ans, là?
J'avais 20 ans, je dirais, moi, tout construit, moi. Puis là, ça marchait. Tiens, ça me plaisait, mais j'avais... La seule solution, c'était ça, moi. De m'en sortir.
Et là, vous êtes resté combien de temps?
J'ai resté 3 ans. 3 ans en carte. Mais là, t'es parmi... Avec des jeunes, t'as 6 appartements. Filles, garçons. D'un côté, c'est les filles, puis de l'autre côté, HLM différent pour les garçons. J'ai appris à vivre avec des filles aussi. Et après, avec des garçons. D'abord, c'est avec les garçons, puis...
Et les filles dans tout ça?
J'ai eu plein de relations avec des filles.
Mais c'était la première fois?
Ouais, c'était bien. C'était excellent, je trouvais. Hein, voilà. Bon, autant pour 50, hein.
Enfin, j'ai subi des trucs aussi, hein, les filles. Hein.
C'était comme moi. Il a reprenait le goût de la vie, hein. Il y a eu des filles qui ont eu des problèmes dans leur vie aussi.
C'était des filles maltraitées aussi.
Oui, ouais, sûrement.
Mais vous n'aviez pas peur des filles?
Tu leur demandes s'ils n'ont pas peur des garçons, vous savez. Voilà. Non, j'ai pas eu peur. T'apprends à connaître les filles, hein. Tu fais pas ça comme ça. Hein. Mm. Tu vas pas sauter dessus quand même. Hein. C'est vrai, quand t'apprends à vivre avec quelqu'un, c'est dur. Hein. Avec plein de gens, je connaissais pas ça, moi. Hein. Quand t'es tout seul, réservé tout seul, voilà, ça m'a vachement aidé, ce centre-là. Quand j'ai vu des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont cajolé, toi, j'ai jamais vu ça, moi. Puis d'un seul coup, tu vois des gens gentils comme ça, c'est là que tu te dis, putain...
Ça existe.
Bah oui, voilà. On me l'avait appris, moi, attention, ma tante. Sur le livre, tu vois, il y avait des gens qui pleurent, c'est bien indiqué. Tu vois, elle avait un bouquin là-dessus, putain, c'était extraordinaire, ça. Ce livre qu'elle avait. Dur, hein. J'étais violent avant, hein.
C'est ce qui m'arrivait tout ça, hein, à la façon, hein. Tu deviens violent, hein.
Vous étiez violent?
Ah oui, quand il t'arrive des trucs comme ça. Bon, tu n'avais pas sur les gens, moi, hein. T'es violent, c'est dans ta tête, hein. Je passe à travers les fenêtres, hein. T'as déjà vu ça, toi? Les grandes baies vitrées. Je passe à travers. Coupé. Tous les jours. Il échangeait tous les jours, hein, avec moi. Eh ouais. Je veux pas, moi, de carreau. Ça revenait peut-être à mon enfance, c'est peut-être ça. C'est comme s'il n'y avait pas de carreau. Je bloquais le passage, ou passais, tu passes dans le carreau, hein.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez dans une pièce où il y avait des gens qui vous bouchaient la sortie, comment vous empêchait de sortir par la porte, enfin sans le vouloir d'ailleurs,
tout droit, dans la fenêtre.
Vous vous échappiez par la fenêtre, en cassant les carreaux.
Mais pas avec le poing. La tête, la première dans le carreau, je passe à la fond, moi. Puis coupé de partout, c'est pas grave. Je sentais rien, je finis de partout.
Et tous les jours?
Non, peut-être pas tous les jours, hein. Ça m'a ras-le-cul, hein. Enfin, les carreaux, ça dégageait, hein. Quand tu sors du carte, eh ben, je fasse quelque chose, hein. Ouais, du centre. Puis j'avais l'âge. C'est une location. Bah, j'avais une pension. Truc handicapé. Bah, j'étais malade des nerfs, moi. Ça me permet de vivre, ça. Je pensais pas à peindre un jour. Chez moi, je commençais comme ça. J'ai pas un ami. Il m'a emmené à un truc de foire. Il dit, tu veux pas peindre un jour avec toi? Je voulais pas rentrer aux couleurs du temps, moi.
Les couleurs du temps, c'est un magasin, ouais, c'est ça?
Peinture. Avec tout ça, toutes les peintures, toi. J'osais pas, moi, toi. Un jour, peut-être j'ai dit à ce mec, j'ai peut-être rentrer, hein, je reverrai ça. Toi, lui, il peignait, moi, je peignais pas. Hein. Puis, toi, il y a eu un déclic qui s'est passé. Et un jour, je passais comme ça devant le magasin. L'autre, il me dit bonjour, bonjour. Puis, un jour, je me suis lancé, j'ai dit, allez, je rentre dedans pour voir. Dans le magasin, j'ai regardé un peu. Putain, c'est cher, ça, couillon.
C'est cher, couillon.
Je faisais à ma propre manière, moi, tu vois. Putain, j'ai dit au mec, putain, j'ai pas de sous, moi. Le mec, il me dit, oh, c'est pas grave, j'ai pas de sous, je vous fais un petit cadeau. Putain, moi, j'étais aux anges, moi, j'ai fait un petit cadeau. J'ai jamais eu de cadeau, moi. Bah oui, c'est sympa, il m'a offert une petite toile, non. Il y avait rien dessus, hein. Et après, un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai acheté de la peinture. C'est comme ça que j'ai débuté, moi. C'est marrant, ça.
Et qu'est-ce que vous avez peint?
Ce qui passait dans ma tête. La souffrance de ma vie. Comme ça, naturellement. Des personnages. Oui, toujours le personnage, moi.
Et en couleur?
Ouais. Tetris aussi. Ouais, ils étaient tristes. Ils étaient enfermés dans un truc. Il y avait toujours un cercle autour. Peut-être je revoyais peut-être mon enfance, peut-être. Hein. Puis j'ai trouvé mon style. Après, j'ai commencé à peindre. Je m'arrêtais plus après. Hein. Voilà, c'est ça, hein. Puis après, je l'ai présenté sur le marché. Pour voir si ça se vendait, ça. Putain. On n'était pas connus. Puis ça a bien marché. C'est rigolo. J'étais content. J'avais un peu de sous. J'étais acheté par les mecs. Je voyais plein de mecs comme ça. Je causais avec eux. Bah oui. Hein. Mes toiles par terre. Puis voilà, je vends 500 francs. Non, 20 francs. Pour une bouchée de pain. C'est pour voir. Mais moi, ça me plaisait. J'avais pas de sous. Hein. Payer mon paquet de cigarettes avec. T'as beaucoup de thunes, hein. C'est fort pour moi. Puis j'ai continué, j'ai pas arrêté, hein.
Mais vous aviez quel âge?
Ah, voyons, putain, 40 ans là maintenant. Ouais, ouais, pendant 40 ans, ouais.
Et comment on pourrait qualifier votre peinture?
L'art naïf, moi j'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfants aussi. Tu regardes des bouquins. Parce qu'il y a des bouquins maintenant. Mais j'ai pas été dans les galeries, moi.
Et qui admirez-vous comme peintre?
C'est ça, moi, toujours. Gachon, c'est ça, il a eu une vie très pauvre, ce mec-là. Si le mec qui a inventé l'art brut, c'est beau. Hein, c'est, comment il s'appelle, Dubuffet, moi, je dirais, moi. C'est lui qui l'a inventé, c'est un art brut. Maintenant, les gens, ils s'intéressent à moi, c'est bizarre.
Ben oui, ça marche bien, maintenant. Ouais. Vous vendez bien?
Oui. Pour les vendre tous les jours, ce serait bien, hein. Hein. Tous les jours, ça me paraît, moi. Hein.
Est-ce que vous vendez à des collectionneurs, à des musées?
Ah oui, des collectionneurs, puis des musées aussi. Ouais. Précœur Cheval. Le plus grand musée d'art brut, c'est le Précœur Cheval. Dans la Drôme. Puis à la Palisse aussi. La Palisse, c'est dans l'Allier. Pourquoi vendre cher? Ça sert à rien.
Oui, mais en fait, vous, l'argent que vous gagnez par vos peintures, vous pouvez le garder?
Non. On l'envoie au tuteur C'est une tutelle.
Parce que vous avez une tutelle.
Voilà. Tu auras tête légère maintenant. J'ai le droit de voter, avant, j'avais pas le droit de voter.
Ouais. Et vous avez voté récemment?
Oui. Attends, le premier coup, ça m'a dégoûté. J'arrive là-bas, présente ma carte. T'as pas le droit de voter, il me dit. Bah, comment que ça se fait, pas le droit? Je suis un citoyen comme les autres, moi. J'ai pas le droit de voter. J'ai dit, j'irai ma carte, moi. Ah, oh là là, la honte. Ouais. Première fois de ma vie, j'allais voter, moi. J'ai jamais voté, moi, avant. J'étais fier, moi, d'aller voter.
C'était trompé dans les listes électorales et vous avez pas mis, quoi. Voilà.
C'est bien, ça.
C'était les élections présidentielles?
Oui. Ouais, présentation. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. J'arrête pas de dire le mot, moi. Présidentielle, ouais.
Et vous avez voté au deuxième tour, donc?
Voilà. Comment il s'appelle? Sarkozy. Ségolène Royal, ouais. Au départ, c'est raide, hein. C'est dur, hein, de raconter ce truc qu'ils ont fait, nous, à nous. Partout. Ah oui, hein. Il y a des trucs qui s'est passé, je veux pas en parler.
Je fais un reportage sur Pascal, figurez-vous.
C'est bien, je suis content. Il y a bien des gens qui me disaient, ils me disent, toi, tu n'y arriveras jamais. J'ai bouffé le mur, moi.
Comment on pourrait qualifier votre peinture?
L'art naïf, moi je l'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfants. Tu as un pompier, il m'a dit un jour, c'est marrant, je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Il y a eu un déclic qui s'est passé. On m'a dit de te suicider, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Atelier de l'artiste. Ouais. Attends, je vais allumer.
Mais vous avez peint tous les murs, hein, de la maison.
Ah, mais comme ça, ça va plus vite.
C'est vrai, ça ressemble à une antre, un peu à une grotte.
Bah ouais, c'est bien comme ça, ça fait revivre un peu la maison.
Non, c'est la maison entière qui est une œuvre d'art.
T'as vu, hein.
Mais c'est extraordinaire, cet endroit. Il y a au moins, je sais pas, il y a 400 mètres carrés, là. C'est ici, l'atelier?
Ouais, c'est génial dehors, en plein air.
Il y a combien de toiles et d'œuvres ici?
Bah, il y a plein d'œuvres. C'est vrai qu'il y a des milliers d'œuvres.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce qu'on a récolté aujourd'hui?
Ça va rester dans mon atelier. Et puis après, plus tard, je saurai quoi faire. Autre fois, j'ai plus ça, là. Un totem.
Et vous avez une couleur préférée? Parce que c'est plein de couleurs.
J'ai plein de couleurs préférées. Ça m'inspire, ça. Tu mets un œil là. Voilà. Tu mets deux pointes là, ça fait les cheveux. J'aime bien, c'est dans mon univers. L'univers, il est mystérieux, je dis. Bah oui. Il est pas là, mon marteau exprès. Ça, c'est un marteau exprès. Voilà, comme ça. C'est juste pour tailler, toi. J'aime bien la taille de pierre, moi. C'est le bruit, j'aime bien. Regardez. Là, c'est des formes, ça. J'aime bien les formes, moi. Là, il y a un personnage, les yeux. Le nez, ou peut-être la bouche. Ça m'inspire, ça.
Il n'arrête pas. Il n'arrête pas, vous pouvez aller le voir. C'est un artiste pas maudit. Ça va bien. Le maudit, c'était avant dans sa vie, mais maintenant, comme dit la dame de l'office de tourisme, il a rehaussé en couleur le village. C'est pas mal, quand même. Hein, c'est une belle histoire, quand même. Enfin, ça l'a pas été, mais ça l'est devenu. Et Pascal Audin, je vous le rappelle, c'est à Jancey, 15 places du marché de Jancey. Ça doit être très facile quand vous arrivez. Vous demandez où est le peintre, où est l'artiste, et hop, on conduira sans doute tout droit à cette maison. Il vous recevra à mots ouverts, à gestes ouverts, à couleurs ouvertes et ces difficultés qu'il eut, on les retrouve dans ce que dit Jean Dubuffet, toujours dans l'asphyxiant de culture, puisque Pascal Audin l'a cité, et Dubuffet disait ceci: de même que l'attrait des ébats sexuels se voit augmentée par les interdits sociaux qui les concernent, le ressort de la contestation prend aliment à la fermeté de l'ordre établi et sa tension baisse ou l'ordre établi perd de sa consistance. Il faut aux nageurs de l'eau qu'ils doivent brasser.
Il m'arrive plein de trucs aussi. Que toi, tu sais pas. Moi, j'ai fait une famille.
Vous aviez quel âge?
Ouais, 25 ans, j'irais bien. J'étais un jeune homme beau, en plus. Hein. Ouais. Pas de chance dans ma vie, voilà. Moi, j'ai pas eu de chance avec mes parents, j'ai pas eu de chance avec mon fils. Voilà.
Mais vous avez un fils?
J'ai eu un fils. Quand j'ai eu un fils, j'ai pas eu de chance dans ma vie. Avec mes parents, j'ai pas eu de chance. Mon père et ma mère. Et avec mon fils, j'ai pas eu de chance.
Vous étiez en couple?
En combinage. Ouais, comme ça, ouais. Femme et homme, en couple.
En concubinage, en couple, ouais.
En couple. J'ai vécu l'amour, hein, comme tout le monde, hein, comme les femmes, hein. Bon, voilà, ça s'est bien passé, puis d'un seul coup, il y a eu quelque chose, je sais pas quoi, moi, hein. Le bébé est décédé, puis moi, ça m'a broyé, moi. Il avait 7 mois. Puis toi, c'est bizarre, la vie, hein. A voulu que la vie, j'ai pas cet enfant, voilà. Non, j'ai vécu avec cette femme longtemps, en plus.
Mais alors, du coup, votre compagne, elle est partie?
Bah oui. Peut-être avec pas d'amour pour lui, peut-être, je sais pas. Oui, elle est partie, hein. Ouais. Avec un autre, hein. Tu pètes les plombs, là. Ouais, je passe l'enterrement, tu sais. Bah oui, à l'enterrer aussi. Puis pas n'importe comment, hein. Bah oui, c'est ça le plus dur, hein. C'est ce qui m'a payé mon enterrement, c'est pas ma mère, hein, je peux te dire. C'est des manouches, moi. Ça m'a foudroyé, moi. Ah ouais, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Il me quitte jamais. Je lui dis, dans mes œuvres, il est dans mes œuvres. Je crois que c'est lui qui me dirige. Pascal Pessy fait ça. Pourquoi je fais des personnages, maintenant? Voilà. C'est là que j'avais tentation de suicide. Je voulais mourir, moi, pour ça. Hein. T'as un pompier, il m'a dit un jour... C'est moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Il y a un déclic qui s'est passé. On me dit de te suicider, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie.
Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, hein, votre rêve? Maintenant, vous avez 50 ans.
Ouais. Ah, il y a plein de choses que je voudrais faire. Continuer la peinture et faire un livre de moi. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, toi, quelqu'un, un interprète. Trouver quelqu'un qui me corrige toutes les fautes. Et puis j'y raconte ma vie, de A à Z. Il y a des moments tristes, il y a des moments heureux.
Regard que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et il parlerait d'amour et de choses inouïes. Avec moi, ça n'est plus possible. Ça fait trop longtemps maintenant. Alors certains jours, je préférerais expliquer mon œuvre à un lièvre mort. Mais ça n'est pas possible parce qu'il est déjà occupé avec un type qui lui explique la peinture.
Ce qu'on appelle art psychopathologique, art anormal... Eh bien, c'est absurde d'en faire une seule catégorie, étant donné qu'on peut faire de l'art normal, de l'art culturel, une catégorie. Mais de l'art anormal, il y en a d'infinies catégories et le champ est illimité des nouvelles catégories qui peuvent se découvrir. Je trouve que ce qu'on attend de l'art, et tout le monde est unanime sur ce point, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'on demande, on dit d'un art qu'il est intéressant quand il est novateur, quand il est inventif, quand il apporte quelque chose de neuf, et par conséquent quand il n'est pas normal, quand il n'est pas banal. À mon sens, l'art des fous, quand on parle de l'art des fous, ça n'a pas plus de sens que de parler de l'art des malades du genou. Et j'en suis de plus en plus convaincu.
Comment on pourrait qualifier votre peinture?
L'art naïf, moi je l'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfants aussi.
Et pourtant, c'est Jean Dubuffet, qu'on entendait, lui qui disait... La production d'art est un champ donné à l'esprit de caprice. Rien n'est plus dommageable à l'esprit de caprice que son assujettissement à une raison d'État, son administration par la collectivité qui implique son contrôle et son orientation, au contraire de nourrir le grouillement primordial, l'humus fécond dont naîtront les mille fleurs, la propagande culturelle le stérilise, elle plante à sa place quatre hortensias de papier teint de sa fabrication, dont elle est très fière, et désherbe bien soigneusement tout autour.
Alors, je m'ennuie sérieusement. Je m'ennuie et mon emploi du temps vous appartient complètement. Alors, racontez-moi ce que vous faites là-bas. Vous pouvez voir du soleil et vous mangez des fruits rouges. Et vous devez vous baigner souvent. Hein? Je suis sûr que vous êtes tout nu. 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 Je suis sûr que vous êtes tout nu.
Vous êtes tout nu.
Je suis sûr que vous êtes tout nu.
Vous êtes tout nu.
Vous êtes tout nu, j'en suis sûr. Décrivez-moi cet homme qui parle tout seul et qui n'a plus qu'un bras. Est-ce que vous le voyez toujours marcher devant la maison? Est-ce qu'elle marche toujours devant la maison? Est-ce qu'il marche toujours devant la maison?
Penser au train, ça. Hein? C'est rigolo, ça. Ils sont tout différents, les sifflets. J'aime bien celui-là, moi. Puis quand vous sifflez, l'oiseau, il bouge. C'est génial, ça. Ah, il bouge. C'est rigolo, c'est une belle pièce que j'aime, ça.
Et tout sur dans une vitrine, dans très bien rangée.
Ah, t'as intérêt, ouais. Ça, c'est tout en argent, cela. Oui, ça coûte cher. On dépense beaucoup d'argent là-dedans. Ça, il ressemble à un bateau, celui-là.
Merci à Pascal Audin, merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que c'est place du marché à Jansay, au sud de Poitiers, que ça se trouve, l'atelier de Pascal Audin. C'était un reportage d'Anne Rioux. Pascal et toute la tribu Bernardo ainsi qu'Odile, nous vous remercions. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, et vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que quelques centaines, je dis bien centaines, de numéros de là-bas si j'y suis. Ça vous fait un bel été avec nous, en notre compagnie. Olivier Riotor et Axel Brizard étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette dernière émission de la saison, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert, ben, il attendra vos messages sur le répondeur, mais tout au long de l'été. Et nous nous retrouverons pour le 1er septembre. Je rappelle évidemment le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Toute l'équipe de la base, si j'y suis, vous souhaite un bel été, modeste et génial. La lutte continue.
Au dernier tirage, Euromillion a mis en jeu ça. Vendredi, Euromillion vous propose de gagner ça.
Près de 59 millions d'euros. 59 millions.
C'est long, hein?
Estimation non garantie des gains, partagée au rang 1, voire règlement.
Euromillion.
Il n'y a qu'Euromillion pour gagner autant de millions.
Euromillion est un jeu de la Française des Jeux.
Ocean's 44. Envie de vacances toniques ou besoin de vacances iodées? En Loire-Atlantique, réussissez votre coup avec l'opération Ocean's 44. Ocean's 44. Et doublez la mise. Profitez de l'océan, du littoral, des plages. Et faites-vous doublement plaisir en gagnant des séjours en Loire-Atlantique. Rendez-vous sur loire-atlantique-tourisme.com.
France Inter et Château de Versailles Spectacle présentent les grandes eaux nocturnes les 5, 12, 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août. Dans le jardin, la poésie d'une promenade ponctuée de surprenantes créations visuelles et sonores, de fontaines parfumées et d'un feu d'artifice final. Retrouvez les grandes eaux nocturnes de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Tous les dimanches soirs de l'été, de 22h à minuit,
give me jazz.
This is jazz.
Une série de reportages sur les traces du jazz.
If you can't play the blues, you can't play jazz.
Episode 1.
Première étape.
New Orleans.
Nouvelle-Orléans. Le berceau du jazz.
Give me jazz.
Dimanche, tout l'été, 22h, minuit.
Voilà un long voyage reportage en jazz, Guy Vanctil, premier numéro ce dimanche à 22h. Bel été, bon été à tous. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.